Recto Verso.
Bonsoir et bienvenue.
Alain Maillard.
C'était il y a 10 ans, déjà 10 ans, ou peut-être seulement 10 ans, la guerre prenait fin en Bosnie-Herzégovine après 3 ans de combats fratricides et d'horreurs dont on avait pu croire auparavant qu'elles ne se produiraient plus en Europe. Il y a 10 ans donc qu'étaient conclus les accords de Dayton, du nom d'une base militaire aux États-Unis dans l'Ohio, où en est aujourd'hui ce pays meurtri, partagé, dont beaucoup de ressortissants ont trouvé refuge en Suisse. On va en parler ce soir avec un homme qui ne cesse d'y aller et d'y promouvoir la paix depuis 10 ans. Christophe Solio, bonsoir.
Bonsoir, merci de m'accueillir dans votre émission.
Vous êtes né il y a 48 ans à Brême, en Allemagne, mais vous êtes suisse, vous résidez à Genève, vous êtes psychologue et enseignant. Et depuis 1992, vous participez à différentes actions en faveur de la Bosnie. Vous avez organisé tout récemment une conférence à Genève, les 20 et 21 octobre, justement sur le thème « 10 ans après Dayton et au-delà ». C'est ce qu'on va évoquer ce soir avec vous, qui avez donc beaucoup fréquenté ce pays. Quel diagnostic peut-on poser aujourd'hui? Est-ce que le malade est en voie de convalescence?
Oui, cette métaphore est souvent utilisée. On utilise aussi souvent la métaphore de l'enseignant et de l'élève. L'enseignant, la communauté internationale, l'élève, la Bosnie-Herzégovine. C'est une manière de voir les choses. Dans notre association, dans notre réseau international, nous essayons plutôt d'avancer une autre métaphore de partenariat. Et je crois que c'est là la clé de l'avenir de la Bosnie-Herzégovine. Sur votre question, une réponse simple. Ça va nettement mieux. En même temps, c'est insatisfaisant. On peut s'imaginer que c'est assez simple à comprendre que l'après-guerre, on le voit en Irak, est une période très difficile, très pénible, et que les processus de normalisation, création d'un nouvel État, en fait, stabilisation, rétablissement de l'économie, etc., eh bien, que ce sont des processus complexes et très longs.
Oui, et d'autant plus complexe et long dans le cas de la Bosnie que, comme vous le formulez vous-même dans des articles, il y a une triple transition dans ce pays. C'est pas seulement sortir de la guerre.
Oui, effectivement, c'est une transition de la guerre à la paix, longue. On peut rappeler ici l'après-guerre en France, après la Deuxième Guerre mondiale, ou en Allemagne aussi. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ne serait-ce que le déminage, par exemple, a pris plusieurs années. La reconstruction aussi, ce sont des processus longs et lents. Et quelque part, c'est normal, parce que pendant ce long processus, il y a aussi un État qui se retrouve et qui se reconstruit, aussi symboliquement parlant. On parlera peut-être du pont de Mostar plus tard dans l'émission. Ensuite, il y a une transition de l'économie de marché yougoslave, de l'économie socialiste yougoslave, qui était distincte du système communiste comme on le trouvait dans d'autres pays en Europe centrale, à une économie de marché. Transition aussi à une démocratie avec plusieurs partis. Ça s'est fait en fait au début, ça s'est mal fait au début de la guerre. En fait, on peut dire que cette triple transition est un échec d'une transition qui s'est opéré dans d'autres pays en Europe centrale, en Allemagne par exemple, de manière positive. Et puis la dernière transition, c'est une transition qui donne la clé, si vous voulez, de l'avenir de la Bosnie. C'est transition d'un État sous perfusion, dépendant de la communauté internationale, à un État pleinement souverain et, on en reparlera aussi, intégré pleinement à l'Union européenne.
Donc aujourd'hui, c'est un État qui dépend totalement encore de l'aide internationale.
Totalement non, c'est quand même un État souverain. Et puis surtout, ce que certains intellectuels ont manqué de voir ces dernières années, sous l'impulsion de Wolfgang Petritsch, haut représentant, puis de Paddy Ashton, l'actuel haut représentant, eh bien, un processus de transfert des responsabilités et des compétences s'est progressivement fait de la communauté internationale vers les autorités locales. C'est pas assez visible, c'est un processus qui doit être renforcé et ce sera l'enjeu de la tâche, de la mission du prochain haut représentant qui est en train d'être désigné.
Voilà. L'avenir, comment il se présente? On va y venir, Christophe Solio, mais puisque vous évoquez le haut représentant de la communauté internationale, c'est peut-être le moment de rappeler un petit peu la situation actuelle de la Bosnie. C'est un peu compliqué. C'est un État qui est divisé en deux entités. Il y a une identité qui est assez homogène, la République serbe. Il y a une autre qui est mélangée, qui s'appelle la Fédération et qui regroupe à la fois les Croates catholiques et les musulmans bosniaques. Et puis, il y a donc ce représentant de la communauté internationale, Paddy Ashdown, qui lui a des pouvoirs, une sorte de super préfet de la Bosnie. Selon vous, c'est un système qui a réussi à imposer la paix après 3 ans de guerre, mais qui ne convient plus aujourd'hui.
On peut le dire ainsi, tout à fait. C'est très difficile de rattraper en cours de chemin une erreur que l'on a faite tout au début. L'erreur commise tout au début a été de ne pas donner des pouvoirs forts immédiatement aux représentants. Le premier haut représentant a commencé son travail à Genève, hein, 8 septembre 1995. Voilà. C'était Carl Bildt, avant même qu'il soit nommé officiellement haut représentant. On reviendra sur cette symbolique, sur ce rôle de la place de Genève. Il lui manquait à l'époque des pouvoirs étendus qui lui auraient permis d'écarter les criminels de guerre, des ultranationalistes du pouvoir dans les premières années d'après-guerre. C'était indispensable, on n'a pas pu le faire. On a pu commencer à le faire seulement en 97, fin 97, c'est-à-dire 2 ans après la fin de la guerre. On a perdu énormément de temps à ce moment. Et aujourd'hui, on se trouve évidemment dans une autre phase, à une autre étape du développement de la Bosnie, où ces pouvoirs étendus, qui donnent pratiquement les pleins pouvoirs aux représentants de la communauté internationale, eh bien, on est en train de diminuer progressivement et l'année prochaine fortement ces pouvoirs, et c'est tout à fait logique.
Oui. Il y a des négociations d'ailleurs qui sont en cours pour redéfinir un peu la construction constitutionnelle du pays. Comment ça se passe, Christophe Soliot? Est-ce que maintenant les représentants des partis nationalistes qui ont fait la guerre et qui sont toujours au pouvoir, est-ce que ces représentants arrivent à discuter, à trouver des compromis?
Oui, ça c'est celui ou celle qui serait capable de mettre sur la table une nouvelle constitution pour la Bosnie-Herzégovine, eh bien, serait riche, peut-être pas tant au niveau financier, mais il aurait un sacré mérite, ou elle aurait un sacré mérite. Je crois qu'il y a un excès d'attention consacrée à la constitution. En définitive, prenons le cas anglais, on peut à la rigueur très bien vivre sans constitution.
Ce qui est le cas de la Grande-Bretagne. Oui.
Tout à fait, voilà. Oui. En Bosnie, bien entendu, il faut trouver des régulations. On est dans une situation très paradoxale. L'unique constitution actuellement en vigueur n'existe pas en langue locale, serbo-croate, bosnien, uniquement en anglais. Et c'est une constitution qui est annexée à un traité de paix, autre particularité, et qui a essentiellement été rédigée par des étrangers. Donc déjà symboliquement, on imagine très bien la nécessité pour un pays d'avoir sa constitution. Le problème actuellement, dans certaines initiatives qui sont louables, eh bien, on a comme acteurs politiques, effectivement, je dirais des politiques caméléons qui, petit à petit, modèrent leurs propos. Et on a, dans certains partis, on peut mentionner ici le HDZ, on a quelqu'un d'absolument remarquable, il faut le souligner, Martin Dragouche.
C'est le parti croate.
Le parti bosno-croate, qui est en train de soit d'aller vers une scission, soit d'aller vers une recomposition. L'avenir nous le dira, mais on a des personnes qui sont prêtes à parler pour toute la Bosnie, donc en intégrant le point de vue non seulement des bosno-croates, mais de l'ensemble des citoyens de Bosnie-Herzégovine, et de tenir un discours qui, naturellement, défend aussi l'intérêt des personnes d'origine culturelle croate. Donc, petit à petit, on va vers une évolution. Est-ce que les acteurs politiques qui actuellement se sont réunis à Bruxelles mi-novembre et qui se réunissent aujourd'hui et demain à Washington sont capables d'arriver à un compromis, oui, certainement, mais pas à une révolution, pas à une constitution que l'on souhaiterait, nous, avec une perspective citoyenne forte, avec un État unitaire qui s'affirme de plus en plus, mais qui serait affirmé au niveau des institutions au niveau de la Constitution de manière forte et crédible. Je crois que là, il faut faire preuve de patience. Ce sera possible, je pense, d'ouvrir des négociations pour une Constitution qui soit nouvelle, qui soit propre au pays, après les élections qui auront lieu cet l'octobre pardon, de l'année prochaine. Voilà.
Christophe Soliot, toujours dans le diagnostic de la situation, la séparation des trois populations, croates, serbes et bosniaques musulmanes, c'était la caractéristique de cette guerre, l'épuration ethnique qui avait tant choqué et qui est restée au fond un peu dans les faits. Les populations restent très séparées. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive quand même à se déplacer d'un côté à l'autre du pays? Est-ce qu'un musulman ose aller chez les Serbes et vice-versa? Où est-ce que ça en est?
Dans des petits villages et pas dans des grandes villes, eh bien on assiste à des relations de bon voisinage qui se rétablissent entre personnes de communautés culturelles différentes. Alors est-ce que la Bosnie est à nouveau le paradis, est à nouveau un morceau de l'espace yougoslave tel qu'il était auparavant? Malheureusement non, et je pense que c'est à cela que vous faites allusion. Dans un certain nombre de villes, à Sarajevo par exemple, eh bien la répartition, la distribution selon les appartenances, eh bien n'est plus identique à celles qui existaient avant la guerre. On peut cependant mentionner quand même un point pour ajouter à la complexité de la situation, mais aussi pour mieux comprendre ce qui se passe. Certains mouvements, mais pas massifs évidemment, de déplacement de population auraient quand même eu lieu si la guerre n'avait pas eu lieu, pour des raisons simplement économiques. On pense à des déplacements par exemple de gens de Srebrenica ou même d'ailleurs de Mostar par exemple, des gens qui vont plutôt s'installer sur la côte parce que la situation économique est meilleure tout simplement. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte, et on sort du discours de type nationaliste. Hein. C'est-à-dire on reprend et on renforce en fait leur crédibilité. Et là-dessus, si jamais on avait le temps, j'aurais encore une autre analyse qui déconstruit totalement cette logique de guerre qui apparemment se fonderait sur des théories ou des pratiques soi-disant nationalistes.
Quelle est votre théorie ?
Écoutez, c'est pas une théorie, c'est un certain nombre d'analyses que un certain nombre d'experts partagent. À regarder de plus près ce qui se passe non seulement en Bosnie, mais aussi à Zagreb et à Belgrade, ce sont plutôt des milieux politiques et économiques qui n'étaient pas intéressés à une transition du type de celle que l'on a pu constater en Allemagne de l'Est, en ex-Allemagne de l'Est, en Pologne et dans les autres pays d'Europe centrale, et qui étaient intéressés par conserver, un, le pouvoir, et deux, l'accès et le contrôle surtout sur des sources de financement. Donc c'est des intérêts malheureusement de type économique et mafieux qui se cachent derrière un discours qu'à tort, ou bien que de manière excessive, disons, on présente comme nationaliste. Ça, c'est l'habit, mais d'une fois que l'on enlève ce masque, il y a des intérêts beaucoup plus bas, beaucoup plus mesquins, beaucoup plus vils, à Mostar par exemple, mais ailleurs, qui animent les gens. Et on peut faire la démonstration de la chose, en prenant le cas de la Serbie, avec des mouvements d'opposition très forts, avec des gens qui massivement ont fui l'armée, etc. Donc, il n'y avait pas du tout une démobilisation au début de la guerre. Au contraire, permettez-moi encore ce point, et ça c'est un des grands paradoxes, après 10 ans de renforcement, même plus si on tient compte de la guerre, 13 à 14 ans de soutien aux forces de la société civile en Bosnie, eh bien la capacité d'action et de manifestation est beaucoup plus faible qu'au début de la guerre. Donc il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser sur l'action de la communauté internationale, par exemple en Bosnie-Herzégovine, dans le domaine du renforcement de la société civile. On a l'impression qu'on assiste à un processus de castration plutôt qu'à autre chose.
Ce qu'il faudrait faire, ça on y reviendra, Christophe Soliot, mais toujours dans l'état de la situation, quelles qu'aient pu être les motivations des uns et des autres à déclencher la guerre, il n'en demeure pas moins qu'apparemment, la méfiance maintenant des communautés, la méfiance mutuelle est bien enracinée. Je lisais un reportage parlant de la ségrégation dans les écoles, qui tend à indiquer qu'elle est absolue.
Oui, alors ça, c'est un sujet de préoccupation. Et encore, on peut tout de suite réagir et se dire, mais comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? Non seulement en questionnant l'action des autorités locales, mais aussi l'action ou l'inaction de la communauté internationale, notamment de l'OSCE, qui s'est chargée de ce dossier donc de l'éducation. Donc là, il y a quelque chose de très préoccupant. Souvent, on montre du doigt les questions économiques ou les questions constitutionnelles, donc plutôt politiques, et on oublie le futur du pays. Et là, je crois que c'est quelque chose de très, très, très préoccupant, qui me rappelle, par exemple, la situation au Kosovo, où il y avait aussi des écoles de ce type. Et là, je crois qu'effectivement, vous mettez le doigt dans la plaie, disons. Oui. C'est pas partout comme ça, mais le problème est réel, le problème est bien là. Et de ce point de vue-là, il y a encore du pain sur la planche en termes de réconciliation.
Oui. La réconciliation risque d'être très très longue. Elle l'est peut-être d'autant plus que c'était des gens qui se battaient entre frères.
Oui, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que ça nous met sur une autre voie, hein. C'est-à-dire ce qui nous fait peur, c'est pas tant l'autre dans sa différence, mais l'autre dans sa similitude, hein. Et que l'autre soit égal à nous-mêmes, qu'il ait les mêmes droits, eh bien c'est ce qui est effrayant et pour certains intolérable. Mais voilà, il faut aussi mentionner un autre aspect, c'est que on a une certaine élite, y compris dans les partis néo-nationalistes ou nationalistes, disons, nationalistes ethniques, nationalistes outranciers. Donc il y a des changements, il y a des évolutions. C'est plus comme il y a 5 ans en arrière, ce qui fait qu'on peut avoir des entretiens, on peut avoir des discussions tout à fait intéressantes et constructives. Au niveau de la base, au niveau de la population qui a été endoctrinée, là, il y a un réel travail à faire. Et il faut avoir un certain nombre, là on ne peut pas passer par les agents de la communauté internationale, il faut passer par des relais internes au pays, et là il y a tout un travail qui doit être fait, qui n'a pas été assez fait certainement, et que l'on commence à faire maintenant. Je peux mentionner à titre presque d'anecdote, mais nous étions avec l'ambassadeur Wolfgang Petritsch cet été à Trébigné, nous avons rencontré le peuple qui séjourne, qui vit dans cette ville, et nous avons eu un entretien avec lui, notamment sur la situation globale, mais aussi sur la nécessité d'arrêter Karadzic et Mladic.
Donc c'était le pope serbe orthodoxe.
Tout à fait, tout à fait, oui. Grégorier, pour le convaincre de s'engager sur cette question, parce que si les représentants de la communauté internationale ou d'ONG, etc., arrivent, ou même des journalistes avec ce message, eh bien, c'est un son de cloche. Si des personnalités comme lui prennent la parole sur ce dossier chaud, où justement des gens de l'Église orthodoxe ont eu des positions que l'on peut questionner, pour le moins, c'est différent. Donc il faut que l'évolution se fasse de l'intérieur pour qu'on arrive à de réels changements. Et ça, je crois que tout le monde peut le comprendre. Ça prend plus de temps, mais c'est comme ça qu'il faut faire.
Et ça commence un peu, quand même.
Oui, alors quand même depuis longtemps. Il y a eu des gens fantastiques, Sir John Dizdarevich, Jacob Finzi et d'autres qui se sont engagés dans le dialogue religieux, soutenu entre autres par Cornelius Samaruga, pour mentionner quelqu'un qui est connu ici en Suisse, mais aussi à l'étranger. Donc il y a eu de multiples initiatives qui essayaient de pousser, d'engager et de soutenir dans cet effort des acteurs locaux.
La Bosnie et son avenir, on va y revenir en votre compagnie, Christophe Saulieu. Le temps d'écouter Raphaël, Ne partons pas fâchés.
Bien sûr qu'on a perdu la guerre, bien sûr que je le reconnais, bien sûr la vie nous met le compte, bien sûr la vie si tu n'en plus. Bien sûr que j'aimerais bien te montrer ailleurs où on ferait pas que fuir. Bien sûr j'ai pas les moyens, et quand les poches sont vides alors allons rire. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine. Bien sûr que les montagnes sont belles, bien sûr qu'il y a des vallées, et les enfants sautent sur les mines, bien sûr dans une autre vallée. Bien sûr que les poissons ont froid à se traîner là dans la mer. Bien sûr que j'ai encore en moi comme un goût avalé de travers. Mais ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine, tu sais. Bien sûr, j'ai la ville dans le ventre. Bien sûr, j'ai vendu ma moto. Bien sûr, je te trouve très jolie. J'ai vraiment envie de te sauter. Bien sûr, la vie nous fait offense. Bien sûr, la vie nous fait misère. On ira aussi vite que le vent, même si on a bien souvent rampé. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine, tu sais. Se saouler, attendre le jugement dernier, transplanter là-haut dans le ciel. Il paraît que c'est pas pareil. Il paraît que la vie n'est jamais aussi belle que dans tes rêves, que dans tes rêves. Mais ça ne fait rien, ne partons pas fâchés. Ça n'en vaut pas la peine. Il paraît que les petits moineaux.
C'était le 21 novembre 1995, il y a exactement 10 ans, qu'à Dayton, aux États-Unis, les délégations serbes, croates et bosniaques parvenaient à un accord sous l'égide des États-Unis pour mettre fin à 3 ans de guerre en Bosnie, 4 en ex-Yougoslavie en général. C'était avant le Kosovo à ce moment-là. Et nous sommes en votre compagnie, Christophe Solio, ce soir dans Recto Verso pour évoquer 10 ans après Dayton où en est la Bosnie. On va faire un peu mieux connaissance avec vous. Et comment vous en êtes arrivé à vous intéresser si activement à ce qui se passe en Bosnie. Il y a une date, on va commencer par là, qui a été capitale pour vous, c'est la date du 9 novembre.
Oui, alors la date du 9 novembre signifie quelque chose pour ceux qui connaissent les Balkans. J'aimerais juste, au passage, je reviendrai là-dessus, corriger un tout petit peu. Je m'intéresse, oui, à la Bosnie, mais à ce que Ivan Djuric appelait l'espace yougoslave. Donc j'ai une approche régionale, si vous voulez. J'y reviendrai. Donc le 9 novembre, eh bien, c'est la date de la destruction du pont de Mostar. Et pour moi, c'est une date importante dans ma vie privée. Un 9 novembre, eh bien, ma mère est née. Un 9 novembre à Genève aussi, des événements que on a commémorés récemment, eh bien, se sont passés. Un 9 novembre beaucoup plus important, 89, le mur de Berlin est tombé. Pour moi, c'était important, d'autant plus que le même jour, le même soir, en fait, une heure après, mon fils est né, voilà. Donc, pour moi, la date du 9 novembre est quelque chose de capital, oui, ouais. qui trace mon histoire, qui relie, si vous voulez, voilà, des étapes et des lieux complètement différents, hein, Genève, Brême, ma ville natale, Mostar. Et puis mon fils, voilà.
La chute du mur de Berlin, qu'est-ce que ça a représenté pour vous ?
Oui, ah ben vous imaginez avec deux événements comme ça que l'on vit intensément en même temps, au même moment, c'est très fort. Un espoir immense et que je n'étais pas seul à vivre à l'époque concernant eh bien la réunification d'Allemagne, mais au-delà la réunification de l'Europe. Et puis malheureusement, ben depuis le soufflet est retombé et puis ben on y travaille à l'intégration européenne, de l'Europe centrale, eh bien, c'est chose faite. Et puis, des Balkans, eh bien, voilà, c'est la mission à laquelle on s'attelle maintenant. Mm-hmm. Donc, je crois qu'on est passé d'un moment de, je dirais, utopique, de naïveté, de fol espoir. C'était la fête. J'étais dans des réseaux de dialogue Est-Ouest à l'époque et c'était un immense soulagement, un immense espoir. Imaginez, en plus, avoir un fils qui naît mm-hmm. là-dessus, si j'ose dire. Et puis, après, il y a eu les guerres en Yougoslavie. Hein.
2 ans après immense espoir, voilà, il y a la guerre. Et là, comment le vivez-vous ?
C'était un choc. C'était pas notre guerre d'Espagne, comme le pensait un tout petit peu un intellectuel français. C'était se regarder dans une glace et de dire ben maintenant qu'est-ce qu'on fait. J'ai vu la différence avec la guerre d'Espagne. Aussi une situation.
La guerre civile espagnole entre les fascistes et les républicains en 1936.
Alors là, bien entendu, il ne s'agit c'est pas que d'une guerre civile. Si on prend le cas de la Bosnie, c'était aussi une agression de l'extérieur. J'étais engagé dans un réseau d'intellectuels engagés de Yougoslavie à l'époque, avec des gens de Pristina, de Sarajevo, de Zagreb, des noms qui sont entre-temps connus, Strafo Grebo, Sarajevo, Jerko Puchovski à Zagreb, et puis ouais. À Pristina, Veton Suroj, évidemment, et puis à Belgrade, Sonja Licht et bien d'autres, nous avons décidé de soutenir l'opposition démocratique dans ces différents pays et pas seulement en Bosnie et Herzégovine, ouais. En organisant des tables rondes, des séminaires, y compris à Genève. C'était en 93, si mes souvenirs sont bons, une conférence alternative pour l'espace yougoslave à Genève, c'était.
Oui. Vous étiez donc déjà engagé dans l'ex-Yougoslavie avant la guerre. À l'époque, on n'imaginait pas que ça pouvait être une guerre pareille. On rappelle qu'elle a fait 200 000 morts à peu près en Bosnie. On n'imaginait pas ça.
Certains, oui, malheureusement, parce qu'ils étaient intelligents, parce qu'ils voyaient les choses de l'intérieur. Zoran Pajic de Sarajevo, qui vit actuellement à Londres et qui était avec nous à Genève lors de la conférence que nous avons organisée. Mais c'est vrai, peu de gens ont imaginé ça. Et c'est un enchaînement dramatique, bien entendu. Mmh. Qui laisse, une expérience terrifiante, mais ma responsabilité et la responsabilité de mes amis en Bosnie et ailleurs est engagée moins, et voire pas du tout, sur la question de la guerre et plus sur la paix, sur le futur, sur l'avenir du pays. Nous engageons notre responsabilité pour l'avenir, pour le futur, non seulement de la Bosnie, mais de la région et pour une intégration à l'Union européenne, bien entendu.
Vous parlez de responsabilité, Christophe Solio. En quoi est-ce votre responsabilité à vous ?
Oui, c'est une. Il y a un concours de circonstances, peut-être. Il y a un intérêt pour les questions internationales. Il y a aussi, il faut le souligner, une expérience d'amitié qui s'est nouée et à laquelle on a envie de rester fidèle, quoi qu'advienne. Et on se trouve engagé, on a envie de rester fidèle à ça. Dans ces moments difficiles où on a perdu des amis, on a eu parfois aussi des discussions entre nous difficiles, il y a des liens qui se nouent, qui sont très très forts. On vit, c'est vrai, quand on traverse une guerre, qui, même si moi je l'ai vécu de l'extérieur, évidemment, je vivais quand même à Genève, mais j'étais souvent dans la région et sur le terrain. Et tout au long de ces 10 dernières années, donc dans l'après-guerre, sur une base mensuelle pratiquement, j'étais présent à Sarajevo, essentiellement. Ou dans d'autres villes de la région, eh bien, on ne sort pas indemne, d'un tel contact. Et puis, il y a une volonté de penser l'événement, dirait Hannah Arendt, donc d'avoir une réflexion, mais ça ne suffit pas, aussi de s'engager concrètement. Donc, si vous voulez, il y a 3 étapes. Il y a l'indignation, mais comment en rester à la seule indignation, quelle signification au-delà du symbole donné au fait de manifester dans la rue, que ce soit ici ou à Zurich ou à Belgrade ou à Bruxelles. Il y a un devoir de penser la complexité, donc avec un certain nombre d'intellectuels, surtout de la région, c'est ce que nous avons fait ensemble, collectivement, un travail de réflexion. Et puis aussi, parce que ça suffit pas, sinon on se fait traiter aussi d'intellectuels vivant dans une tour de Babel, on avait envie de s'engager modestement, en fonction aussi de nos capacités, des soutiens qu'on reçoit accessoirement aussi, et bien de s'engager pour faire bouger les choses sans naïveté, sans se prendre pour je ne sais qui, mais là où on peut, d'essayer de faire avancer au quotidien un discours et une pratique qui facilite, qui renforce la réconciliation et la paix.
Ce qui a frappé beaucoup de visiteurs, Christophe Soliou, en Bosnie, y compris, c'est mon cas, à l'époque de la guerre ou juste après, c'était l'ampleur des rancœurs historiques, de la haine même. Ça vous a jamais découragé? Vous y retournez quand même avec plaisir, toujours?
Plaisir, je sais pas, avec émotion, oui. Plaisir, c'est autre chose. C'est le plaisir des rencontres. C'est douloureux, hein. C'est pas évident. Ce que vous dites est important. Le poids du passé est fortement présent. En même temps, d'une manière générale, ce sont des gens, pas seulement en Bosnie, qui vivent un peu plus près de leurs émotions, des sentiments, et qui vivent les choses de manière un peu moins froide, un peu plus passionnée. Moi, je suis né à Brême. Mon père, ma mère était allemande. Les gens du nord de l'Allemagne m'ont dit, d'eux, qui sont distants et froids. Mon père était plutôt méditerranéen, valaisan, vous imaginez. Donc j'ai un peu des deux. Mais c'est vrai que dans les Balkans, les gens vivent plus proches de leurs racines, plus proches de leurs émotions. Elles ne sont pas toujours guerrières, meurtrières, loin de là. Donc il y a aussi les autres côtés qui fascinent, enfin l'autre côté qui fascine aussi et qui est très très beau, lui.
Infotrafic RSR
avec le Salon des Antiquaires du 19 au 27 novembre à Beaulieu, Lausanne.
Sur l'autoroute Genève-Lausanne, on roule au pas entre l'échangeur du Vengeron et la jonction de Copé, direction Lausanne. Même constat à la sortie de la Chaux-de-Fonds, direction du Locle, surcharge de trafic sur ces axes routiers.
Les Rolling Stones, Rain Fall Down.
La première, Recto Verso.
There's a filthy block of flats. Trash was on the floor. A snake was in my nose. Hinges off the doors. She took me in her room. I was spick and span. Fixed me up a drink. Turned down all the lamps. And the rain. We'll
après la guerre, où en est la Bosnie, ses 4 millions d'habitants, dont 2 millions de réfugiés? Quel est son avenir? Nous en parlons ce soir dans Recto Verso avec Christophe Solio, organisateur il y a un mois d'une conférence internationale à Genève, justement sur ce thème, 10 ans après les accords de Dayton. Je vous propose maintenant d'écouter un autre témoignage, c'est celui d'une conseillère nationale, Marianne Huguenin. Elle participait au mois de juillet à une visite de 9 femmes parlementaires fédérales en Bosnie. Je lui ai d'abord demandé de nous rappeler pourquoi elle faisait ce voyage.
Nous nous sommes trouvés un groupe de femmes parlementaires à parrainer un foyer thérapeutique pour femmes et enfants victimes de violences de la guerre à Tuzla. C'est un foyer que Micheline Calmiré avait visité, elle avait promis de les aider. Et il y a eu une volonté de faire un parrainage, de prendre un contact et de continuer à garder des liens. Et nous étions donc 9 femmes parlementaires à nous être rendues à Tuzla dans ce foyer qui est parfaitement modèle et pilote. Hein. Ils font un travail remarquable, mais c'est malheureusement une goutte d'eau dans l'océan des besoins de la Bosnie.
Mmh. Et bien sûr, votre voyage s'est élargi à d'autres destinations.
Alors nous sommes aussi allés à Sarajevo, nous avons rencontré donc dans ce foyer des femmes victimes de la guerre, quoi, de cette région de Srebrenica, qui était donc une région paysanne, hein, où la guerre a été différente de celle de Sarajevo, qui était une guerre urbaine. Nous sommes allés voir des gens qui sont, certains sont rentrés dans la République serbe, d'autres sont toujours, il y a toujours 10 à 15 000 personnes qui sont réfugiées à l'intérieur de la Bosnie, autour de Tuzla, dans des camps encore de réfugiés autour de Tuzla. On a rencontré pas mal de personnes, on a également été à Potočari, nous étions là 2 jours avant les 10 ans du massacre de Srebrenica, il y avait les tombes ouvertes. Je dois dire que c'était extrêmement impressionnant ce voyage dans ce pays. C'est fou comme c'est, on sait, on a lu, on a rencontré des gens ici, on a entendu des récits, mais c'est extrêmement différent de se rendre là-bas. Tout à coup, je dois dire, ça sointe le génocide. Vous êtes dans une ambiance avec les récits des gens, avec ce massacre, ce génocide qui a eu lieu effectivement là-bas, et ça, c'est extrêmement prenant. Je dois dire, moi j'étais mal en rentrant, et si moi qui ai juste vu 10 ans après et entendu des récits, je suis mal comme ça, on peut imaginer dans quel état sont des gens qui ont vécu ces événements.
Vous avez le sentiment, Marianne Huguenin, que les blessures de la guerre cicatrisent très lentement?
Oui, ça cicatrise extrêmement lentement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bosnie à nouveau est divisée en deux. La région où les gens étaient majoritaires, les musulmans de Bosnie autour de Srebrenica, et où ils ont été massacrés, elle appartient maintenant à la Republika Srpska, ça veut dire que rien n'est réglé, les criminels de guerre sont toujours en liberté, les grands comme les petits. Hein, vous avez eu des villages qui coexistaient, serbes et bosniaques, depuis des années, ben, tout à coup les choses se passent mal, et une partie des gens des villages serbes, pas tous, mais j'entends certes, laissent faire ou participent à des crimes, c'est peut-être une des pires choses. Une dame me disait, je peux imaginer qu'il y a la guerre, je peux imaginer que je perds mon mari, mon père, mes frères, mais ce que je peux pas imaginer, c'est que c'est le voisin avec qui je buvais le café pendant 30 ans qui les massacre. Ça, je peux pas imaginer, c'est inacceptable. Et ça, c'est pas réparé. Et tant qu'il y aura pas de reconnaissance politique, au fond, de ce qui a eu génocide, de ce qui a eu agression, et que les coupables seront pas jugés, je pense qu'il n'y a pas de réparation. La réparation est extrêmement difficile et impossible. Et la situation n'est pas simplement plus en République bosno-croate à nouveau, où les gens sont réfugiés, ou quelque part on aimerait qu'ils rentrent là-bas, parce que bien sûr ne pas rentrer, c'est accepter cette division ethnique. Mais pour certains, c'est impossible de rentrer dans la partie où ils risquent de rencontrer au fond les gens qui ont été leurs violeurs, leurs tortionnaires. C'est une situation difficile.
Vous avez déposé une interpellation parlementaire à votre tour, Marianne Huguenin, pour la reconnaissance du génocide de Srebrenica. Au fond, à quoi servirait cette reconnaissance par la Suisse?
Vous savez, je crois qu'il faut nommer les choses par leur nom. Il y a eu toute une analyse de ce conflit à l'époque, et je fais mon mea culpa parce que j'ai partagé cette analyse, hein, qui voyait ce conflit comme un conflit entre deux nationalismes. Il y a des bons, il y a des méchants des deux côtés. Je crois que c'était fou. Et ça m'est apparu alors très clairement là-bas, même si c'est déjà un constat que j'avais fait ces dernières années. Il y a eu agresseur et il y a eu agressé, et il y a eu volonté planifiée de génocide. Ce qui est encore autre chose que des crimes de guerre, c'est vraiment une planification voulue et organisée d'un génocide d'une population à Srebrenica. Je pense que ça doit être dit. L'ONU a fait une autocritique en 99. Peu de gouvernements l'ont fait, mais je crois que ça implique un certain nombre de choses. Ben, par exemple, sur le fait que les gens qui ont été victimes de ces génocides, on les protège, on leur met pas la pression comme on est en train de le faire de manière indigne en Suisse sur des familles bosniaques. J'en parraine une à Renan, et c'est terrible. On force ces gens à rentrer dans un pays où ils ne veulent pas rentrer. Et on casse au fond toutes les petites racines, tous les petits liens qu'ils ont réussi à recréer en étant venus ici. On fait abstraction complète de leur traumatisme, de leur situation de famille, en voulant les forcer à rentrer. Ça, c'est la première chose. Mais je crois que sur le plan de la politique internationale aussi, ça a des significations. Par exemple, dans l'implication de la Suisse pour la transformation, pour tout le débat politique de la Bosnie, de l'après Dayton, sur, par exemple, la non-acceptation de la séparation ethnique, sur le fait de considérer effectivement que c'est pas admissible de renvoyer des gens dans ce qu'on appelle dans leur ethnie. Hein, on admet certaines fois que les réfugiés ne peuvent pas rentrer en République Srpska, mais qu'ils devraient rentrer dans la Fédération bosno-croate. Mais en même temps, c'est pas admissible non plus d'admettre ce partage ethnique. Mm-hmm. Il faudrait aider à le passer. Il faut faire des vrais projets de développement, mais à long terme. Je crois qu'il faut aussi laisser rentrer les gens pour qu'ils voient ce pays de leurs propres yeux avant de les forcer à rentrer. Je pense qu'il faut les laisser choisir. Je pense qu'il y a un nombre d'applications importantes, tant sur le plan du traitement individuel que politique.
Voilà le témoignage de Marianne Huguenin de retour d'un voyage en Bosnie au mois de juillet avec d'autres parlementaires. On retiendra cette expression, ça suinte le génocide. Christophe Solio, un aspect en particulier sur lequel j'aimerais votre réaction, cette question agresseur-agressé, ça a toujours été au fond une ambiguïté. On considérait qu'il y avait un côté plutôt agresseur et l'autre plutôt agressé. En même temps, on veut les traiter sur un plan d'égalité. Est-ce que ce n'est pas encore aujourd'hui le problème ?
Oui, certainement. Je me situe au-delà. Cette question, je crois qu'elle était très, très présente. Légalement, elle doit encore être traitée, évidemment, et elle fait le lit de certaines conversations. Mais je crois que la Bosnie est au-delà de ce que l'on vient d'entendre. Le maire de Srebrenica est un musulman. Les retours, y compris dans les zones minoritaires, se font, pas autant qu'on le souhaiterait, mais pour un certain nombre de raisons, ils ne se feraient de toute façon pas de manière massive. J'évoquais ça auparavant, donc j'aurais un avis plus nuancé que ce que l'on vient d'entendre. Sur la question des responsabilités aussi au niveau de l'État, la chose est pendante, et donc la Bosnie s'est attaquée au niveau juridique, donc la Serbie, et donc il y a un jugement qui doit être fait. Mais ça, c'est des questions qui vont encore durer assez longtemps. Il y a des pas qui se font, qui sont encore naturellement insuffisants. Le président de Serbie était là, à Srebrenica. Il n'a encore pas dit, il n'a encore pas demandé pardon, mais il était là, c'était à demi-mot, des choses qui doivent être dites, qui ont été dites. Donc ça se fait lentement. Je crois qu'il faut travailler plus à soutenir un processus endogène. Voilà.
Il y aurait encore beaucoup à dire, Christophe Solio. Il nous reste plus beaucoup de temps. Il faudrait surtout évoquer peut-être l'avenir. Est-ce que, au fond, cette perspective qui s'ouvre maintenant d'une adhésion future à l'Union européenne, c'est ça qui, à votre avis, va être décisif?
Évidemment. C'est ce que l'on constate avec l'adhésion des pays de l'Europe centrale, mais aussi des autres pays des Balkans, où il n'y a pas eu, un, la guerre, deux, où il n'y a pas eu une présence de l'aide étrangère aussi massive, je dirais excessive, par rapport aux capacités du pays. Qu'est-ce qui a fait bouger la Bulgarie, la Roumanie ? Eh bien, tout simplement, la perspective de l'intégration européenne. Ça fait déplacer des montagnes, et pas l'importance de l'aide de la communauté internationale. Contrairement à ce que l'on vient d'entendre, moi, je pense qu'il aurait fallu faire moins et mieux. Mmh. Et c'est là la clé du succès. Et l'autre levier qui est colossal, et où tout le monde est d'accord, en Bosnie, tout le monde, j'insiste, tout le monde, eh bien, c'est l'intégration à l'Union européenne. Et je crois qu'il y a une date qui... Il y aura plusieurs dates, évidemment, parce que ce sont des processus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est... vous avez parlé de Dayton, mais oui, c'est juste, mais c'est faux en même temps. Dayton a commencé à Genève, ensuite un 21 septembre, ensuite... non, ou un 8 septembre, pardon. Et ensuite, ça s'est déplacé à New York, et ensuite ça s'est déplacé à Dayton, et ensuite le document a été signé, vous le savez très bien, à Paris. Et bien maintenant, c'est exactement la même chose. On a commencé un nouveau processus, une nouvelle dynamique, et de nouveau, ça a commencé à Genève, c'était le 21 octobre. Pendant la conférence, on a Olli Rehn, qui était le jour avant à Genève, donc qui a préannoncé la chose quand même lors de notre conférence, et bien a confirmé depuis Bruxelles. Et c'était logique que l'Union européenne allait ouvrir les négociations qui mettent en perspective l'adhésion de la Bosnie. Et donc, ça ouvre l'avenir. C'était naturellement pour nous un soulagement. C'est ce pourquoi nous sommes engagés. C'est ce pourquoi nous continuerons de nous engager de manière très pragmatique, de manière très, très concrète. Je pourrais en dire quelque chose après peut-être. Et je crois que ça, ça ouvre une nouvelle perspective. Et dans le cadre de ce processus qui sera assez long d'intégration à l'Union européenne, bien vous verrez que les questions constitutionnelles vont petit à petit être réglées, que les questions économiques vont aussi s'améliorer, que les questions de culpabilité aussi d'un point de vue juridique, hein, la reconnaissance aussi de la Serbie, de ses fautes, eh bien tout ça va trouver sa place, sa solution dans ce processus qui va très certainement durer une dizaine d'années. Mais je crois que ça ouvre effectivement l'avenir. On est dans une autre logique. On a quitté l'ère de Bruxelles, l'ère de Dayton, et on est entré maintenant dans l'ère européenne, dans l'ère de Bruxelles. Je ne parle pas de la Suisse, bien évidemment, non, parce qu'on n'en est pas encore là.
Mais je la, parle Bosnie de la Bosnie sera avant la Suisse dans l'Union européenne.
Écoutez, justement, je pense qu'effectivement, la Suisse aura, puisque la Suisse a très bonne presse, est très bien vue, s'est engagée fortement dans c'est un des quatrièmes pays contributeurs. Il y a un retour sur l'investissement à peu près nul, mais je pense que le jour où la Suisse approchera l'Union européenne sérieusement, eh bien que la Bosnie défendra cette adhésion avec plaisir.
Christophe Solio, merci.
On vit d'amour dans le regard des autres. On vit d'amour dans le mien et le vôtre. On vit d'amour quand il n'y a plus d'eau fraîche. On vit d'amour tout au fond de la dèche. Laisse-le briller, éclaire. Laisse-le venir, laisse-le aller. Car on vit d'amour. On vit d'amour. Sous les bombes et les pluies. On vit d'amour. Laisse-lui vivre sa vie d'amour. Car envie d'amour. Envie d'amour. Je mange dans ta main. À l'amour, sa liberté.
Envie d'amour, c'est le titre de ce morceau signé Jean-Louis Aubert et c'est issu de son nouvel album auquel nous consacrons une journée spéciale sur la première. Cet album s'appelle Idéal Standard. Un point maintenant sur le trafic.
Infotrafic RSR
avec le Salon des Antiquaires du 19 au 27 novembre à Beaulieu, Lausanne.
Sur l'autoroute Genève-Lausanne, on roule toujours au pas entre l'échangeur du Vengeron et la jonction de Copé direction Lausanne. Le trafic est également ralenti à la sortie de la Chaux-de-Fonds direction le Locle. Sur l'autoroute Lucerne-Bâle, un bouchon s'est formé entre l'échangeur de Herkingen et la jonction d'Egerkingen en direction de Bâle à la suite d'un accident. L'autoroute Vevey-Martigny sera fermée dans les deux sens entre les jonctions de Montreux et Villeneuve. Des travaux de finition sont planifiés aux abords du tunnel de Glion chaque nuit de 22h à 5h, cela jusqu'à jeudi à l'aube. En ville de Genève, le passage du pont de la Servette sera fermé dans les deux sens dès minuit. Un chantier se déroule à cet endroit jusqu'à 5h30. Cette opération sera répétée chaque nuit aux mêmes heures jusqu'à vendredi. Des retards et des suppressions de trains sont prévus dès 20h entre la Suisse et la France. Les cheminots français sont en grève pour une période indéterminée. Davantage d'informations au 0900 300 300, 1,19€ la minute, ou bien en page 487 du télétexte.
Infotrafic RSR en collaboration avec les CFF et le TCS.
Voilà, merci encore à notre invité Christophe Solio qui se trouve maintenant à Washington pour les 10 ans de Dayton justement. Demain nous parlerons pétrole avec Yves Cochet, ancien ministre, candidat pour le Parti écologiste français à l'élection présidentielle.
Recto Verso, avec le magazine Bilan, le bimensuel de l'économie.
L'heure, offerte par Crémo et son fromage à raclette, Mazot.